بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ça fait un long moment que j'ai l'intention de traiter de ce sujet, le mariage civil. Parce que on entend par-ci par-là des personnes, au nom de Dieu, de la religion et de la sunna, dire qu'on n'a pas besoin de passer à la mairie, on n'a pas besoin d'enregistrer le contrat de mariage auprès d'une instance compétente, mais qu'il suffit de faire la fatha, et c'est une affaire classée, on peut vivre la conscience tranquille. Et d'ailleurs, ce qui a motivé le choix de mon sujet aujourd'hui, c'est que j'ai eu un appel téléphonique cette semaine avec ce type de personne, et on a discuté pendant une bonne demi-heure, argument contre argument. Bon, déjà, première remarque, au niveau des connaissances religieuses, c'est zéro, voire même en dessous de la barre du zéro. Deuxièmement, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la réalité et ce sont des personnes qui vont aborder ce genre de sujet, comment dire, en fait, en se prenant comme modèle. Ils ne prennent pas en compte les différentes composantes de la société. Ça va être très clair dans la suite. D'abord, en guise d'introduction, parce que ce frère-là, l'un des grands contre-arguments qu'il avançait, j'ai eu du mal à essayer de démonter cet argument, c'est qu'il disait d'abord que c'est une chose qui n'était pas présente à l'époque du prophète, alayhi wassalam. Il n'y avait pas de mariage civil. Et deuxièmement, qu'aujourd'hui, se marier à la mairie, c'est finalement faire appel à des lois humaines non musulmanes. Donc c'est une forme de shirk. Voilà les deux grands arguments qu'il avançait. Afin de répondre à ces deux arguments et de présenter la conception du mariage en islam, on va s'appuyer sur un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Zayd ibn Khalid al-Juhani dit « J'ai un homme s'est présenté au prophète alayhi salatu wassalam et il lui a demandé ce que l'on devait faire des objets trouvés quand on trouve un objet perdu qui est tombé de la poche de son propriétaire, qui a été abandonné et oublié dans un espace public. Le prophète répond, reconnais bien l'outre. Donc il a pris comme exemple une outre. Reconnais bien l'outre et ses ficelles. Et ensuite annonce l'objet perdu pendant un an. Pendant un an, donc tu prends cette chose, tu la gardes chez toi comme un dépôt, et ensuite tu lances un avis de recherche et tu fais savoir aux gens que tu as trouvé une chose perdue en la décrivant. Si le propriétaire vient, dit le prophète, donne-la lui. Sinon, tu peux en disposer après un an. L'homme demanda, et la brebis égarée, si on trouve une brebis égarée. Le prophète répond, elle est à toi, ou à ton frère, ou au loup. C'est-à-dire, encore une fois, elle sera à toi après un an, ou si ton frère vient la demander, tu lui rends, tu lui restitues sa propriété, et si tu laisses la bête, bah finalement, ce sont les loups qui vont la manger. L'homme demanda de nouveau, et qu'en est-il du chameau égaré? Le prophète lui dit, pourquoi te préoccupes-tu de lui, du chameau? Pourquoi tu me poses des questions sur un chameau perdu? Il a de quoi boire. Ses sabots lui servent de chaussures. Il peut se débrouiller tout seul. Il va s'abreuver et manger les feuilles, jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve de lui-même. Autrement dit, le prophète fait une distinction entre un animal faible, vulnérable, qui peut être mangé par un animal sauvage, un loup en l'occurrence, et un animal assez fort pour se défendre. Donc l'animal assez fort pour se défendre, tu n'as pas à le prendre, tu le laisses jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve. Hadith authentique, très clair, comme vous le savez. Pourtant, si je vous dis que si vous trouvez une chose perdue, un portable, un porte-monnaie, un portefeuille, vous n'avez pas à le mettre chez vous et à lancer un avis de recherche, et après un an, vous en faites votre propriété. Vous me direz, mais tu vas à l'encontre du hadith. Mais c'est très grave ce que tu viens de dire. Eh bien, vous savez, un grand compagnon a été à l'encontre de ce hadith. C'est pas n'importe qui, c'est le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan. À l'époque du prophète, voilà ce qui était mis en pratique. À l'époque de Abu Bakr, c'est pareil. À l'époque de Omar, c'est pareil. Et à l'époque de Uthman, il décrète une loi dans laquelle il dit si vous trouvez des chameaux ou des chamelles perdus, vous les prenez, vous les vendez et vous gardez le prix que vous avez tiré de cet animal. Et si le propriétaire vient vous demander son animal, vous lui rendez l'argent. Au départ, ça a été mal compris par les compagnons. Ils se sont dit, mais tu vas à l'encontre d'un hadith. Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit non, car l'époque a changé. Les gens ont changé. Si à l'époque du prophète de Abu Bakr et de Omar, un chameau pouvait rester en liberté pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que son propriétaire le prenne, aujourd'hui les gens ont changé. Il n'y a plus de confiance. Les gens ont changé. Si on laisse ces chameaux en liberté, les voleurs vont s'en emparer. Les gens vont les voler. Autrement dit, les droits des gens vont être bafoués et perdus. On va changer ce qu'a dit le prophète au nom de quoi ? Au nom de la finalité de la loi. C'est-à-dire que si le prophète il a mis en place ces mesures, c'était pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, si on prend à la lettre ce qu'a dit le prophète, on va à l'encontre de l'objectif même, qui est que le propriétaire retrouve son chameau. Ça, c'est la méthodologie des compagnons. Et le prophète, alayhi sallam, a dit « Alaykum bi sunnati, vous devez vous accrocher à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. » Et tous les califes, sans exception, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ont mis en place des mesures qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Ils ont même remis en question des choses que le prophète avait mises en place. On prend Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, vous savez, c'est lui qui a demandé à ce que le Coran soit compilé, qu'on en fasse un livre, un mushaf. Omar ibn al-Khattab va le lui reprocher en lui disant « Le prophète ne nous a pas demandé de le faire. » Autrement dit, c'est une bid'a. Et Abu Bakr et Omar vont, argument contre argument, défendre leur position jusqu'à ce que Omar adhère à l'avis de Abu Bakr. Parce qu'il a compris qu'il y avait un enjeu derrière, un objectif louable. Omar ibn al-Khattab, lui-même, quand il était calife, il va remettre en question le fait que les soldats, donc dans une bataille, quand ils prennent possession d'une terre, donc une terre qui a été prise par les soldats, elle leur revient. Ça devient leur propriété à parts égales, avec une partie qui revient à l'État. C'était comme ça que c'était fait à l'époque du prophète, et c'est même dit dans le Coran. C'est le partage du butin. Omar, à son époque, il dit non, ces terres, on ne va pas les remettre aux soldats en tant que butin. On va laisser ces gens rester propriétaires de leurs terres, et on va reverser aux soldats une part de la moisson, c'est-à-dire un revenu. Parce que si on ne fait pas ça, les musulmans, dans le monde musulman, vont être les grands propriétaires terriens. Ça va créer des disparités sociales, peut-être de la dictature. On ne veut pas ça. L'islam ne nous appelle pas à ça. Uthman ibn Affan remet en question certaines choses, notamment ce qu'on appelle le divorce échappatoire. Une personne est en train d'agoniser et pour priver son épouse de l'héritage, il divorce d'elle à la fin de sa vie, quand il est en train d'agoniser, souvent sous la pression de ses héritiers mâles. Uthman ibn Affan dit, si une personne répudie sa femme ou divorce au moment où il est en train de mourir dans sa maladie, alors son divorce ne comptera pas. Et on remettra à son ex-épouse, parce que de fait elle est son ex-épouse, une part de l'héritage, parce qu'on va priver cette femme de ses droits. Et je pourrais vous sortir des dizaines d'exemples. Tous ces exemples, peu de gens les connaissent. Parce qu'en fait, on a l'habitude de nous enseigner qu'il faut mettre à la lettre ce qui a été fait à l'époque du prophète, alayhi salam. Alors aujourd'hui, on nous dit, le mariage civil n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salam. Il n'y avait pas de passage à la mairie. Donc aujourd'hui, ceux qui vous disent qu'il faut passer à la mairie, eh ben, ils sont en train d'inventer. Ils sont en train, peut-être, de faire une innovation blâmable. Écoutez bien. Quand le monde musulman a quitté l'Arabie saoudite et qui s'est étendu, il y a eu la fondation d'un empire, d'État, donc la mise en place de systèmes judiciaires pour gérer les affaires des citoyens, musulmans ou pas. C'est à cette époque qu'on va réclamer et demander aux musulmans d'enregistrer leur contrat de mariage auprès des instances compétentes de l'époque. Et ça a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. Dans n'importe quel pays musulman, il y a un mariage civil. Mais ces gens-là sont malhonnêtes, puisqu'ils acceptent qu'il y ait des mariages civils dans les pays musulmans, mais pas dans les pays non musulmans. Comme si, en fait, c'était deux mondes à part. Comme si les uns avaient le droit de préserver leurs droits et pas les autres. Mais ils avancent un argument en disant, mais là, c'est la loi des non-musulmans. Le fait de se marier, donc selon la loi des non-musulmans, c'est une manière d'aller à l'encontre de sa religion. Et là encore, c'est une absurdité. Parce que le prophète, alayhi salam, quand il était 13 ans à la Mecque, donc dans une société qui n'était pas islamique, il profitait des lois non-musulmanes, tant qu'elles étaient justes pour lui. Notamment ce qu'on appelle El-Jiwar, c'est-à-dire l'immunité ou la mise sous protection. Le prophète A.S.A.T.W.S.A.L.A.M. profitait d'une loi de l'époque qui s'appelle El-Jiwar. Il s'est mis sous la protection de son oncle. Personne ne pouvait le toucher. Abu Bakr al-Siddiq voulait faire la hijra, il va revenir parce que Ibn Durunna va lui dire « Tu es sous ma protection ». Le prophète A.S.A.T.W.S.A.L.A.M. va envoyer beaucoup de musulmans, 70 à peu près, en Abyssinie, en terre chrétienne, parce qu'il leur dit, là-bas, vous allez trouver un roi qui ne fait injustice à personne. Profitez de ce système qui est juste. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de profiter des lois humaines, tant qu'elles sont justes. Tant qu'elles sont justes. Et si elles sont injustes, à nous de les changer, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'ils proposent quand ils disent pas de mariage civil ? Mais vous savez ce qu'il vous propose ? Il vous propose l'anarchie, la loi de la jungle. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, je te promets par ma langue que je te chérirai, je te promets par ma langue que je ne te ferai pas de mal, mais comme il n'y a pas une loi au-dessus pour me dire, fais attention, si tu es injuste, je serai là pour te punir, et bien vous savez ce qui se passe. Beaucoup de mariages, et ce sont des coups de téléphone chaque semaine, où j'entends ce genre d'histoire, on va faire le zawaj selon la sunna. Et après quelques mois, quelques années, il divorce, mais plus selon la sunna. Parce que quand il divorce, forcément, il ne veut plus d'elle, ou elle ne veut plus de lui. Et comme c'est conflictuel, on ne veut pas être juste. Autrement dit, c'est la loi du plus fort. Et c'est souvent les femmes qui en pâtissent, dans ce genre de cas. Donc, pas de prise en charge, pas de pension, pas de garde alternée. Et si, entre-temps, le mari décède ou la femme décède ? Et l'héritage ? Normalement, il y a un héritage. Est-ce que vous pensez que, s'il n'y a pas de mariage civil, que c'est simplement le mariage dit islamique, est-ce que vous pensez qu'ils vont partager l'héritage ? Jamais de la vie. Et ça va faire des conflits. Autrement dit, le mariage dit religieux, c'est-à-dire sans passer à la mairie, il va à l'encontre des 5 grands intérêts supérieurs que l'islam vient réaliser ou préserver. La préservation de la religion. Quand on fait un mariage en coulisses, on ne préserve pas la religion des gens. Au contraire, ça va conduire à des infidélités, ça va conduire à de l'injustice, ça va conduire à des problèmes à n'en plus finir, à des arnaques, à ce que le vice se répande. Deuxièmement, la préservation de l'honneur. Eh bien, c'est l'honneur des femmes ou des hommes ou des familles qui en prennent un coup. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand il y a des problèmes, on oublie tout. Troisièmement, ça va à l'encontre de la préservation des biens. Parce que quand il y a un souci, il n'y a plus de justice par rapport aux biens. Et la préservation de l'honneur, je ne sais pas si je l'ai dit, la réputation de l'homme ou de la femme, ou des familles, en prend un coup. Le fait de se marier à la mairie, c'est une obligation aujourd'hui. Et quand je dis obligation, j'entends par là religieuse. Parce que si on ne fait pas ça, c'est la porte ouverte à tous les maux. et ça a déjà commencé. J'ai plein d'histoires en tête, mais il n'y a pas le temps de les exposer. Mais ce sont des cas réels, où, au nom de la religion, on arnaque les gens. Au nom de la religion, on arnaque les gens. Donc faites attention à ce genre de discours, qui est loin de l'islam et loin de la réalité, et qui c'est une boîte de Pandore qui est ouverte et qui conduit à beaucoup de dégâts. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de mariage est un contrat extrêmement sérieux, un contrat extrêmement grave, on ne peut pas le prendre à la légère. Bon, ça fera l'objet, Inch'Allah, d'une autre intervention, parce que aujourd'hui, on vous dit, une fois que l'imam m'a marié, eh ben, c'est bon vis-à-vis de Dieu, j'ai tout fait, ce qui est totalement faux, ça c'est une vision chrétienne du mariage. En islam, on n'a pas l'imam mari, ça n'existe pas. L'imam n'a pas un pouvoir qui vient de Dieu, il est capable de marier ou de faire divorcer les gens, c'est pas vrai, ça c'est chrétien, c'est pas musulman, mais on détaillera Inch'Allah une prochaine fois. Des personnes ont fait des sadaqas, vous allez voir, deux personnes, ils demandent des invocations pour leur famille, il y a l'association Agir qui vous propose encore une fois du thé, des gâteaux ou du café pour financer les activités des enfants. Et demain, Inch'Allah, samedi, veillée spirituelle ici à la mosquée à 20h30 avec comme thème, après des prières, les signes de la fin des temps. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم من تصدق علينا فزد له في ماله اللهم من سألنا الدعاء فإن نسأل له الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احفظ له أهله اللهم احفظ له أهله وأولاده اللهم إنا نسألك أن ترحم والدينا كما ربونا صغارا وأن ترحم أموات المسلمين جميعا اللهم إنا نسألك حبك ومرضاك ومرضاتك اللهم إنا نسألك حبك ومرضاتك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une dernière information, demain il y a un cours pour les sœurs à 14h ici à la mosquée.